Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, Victor Hugo, Madame de Lafayette, Monsieur de La Fontaine ou Marguerite Duras qui s'invitent dans notre studio. On va découvrir leur intimité, leur vie amoureuse, leur sexualité. Avec vous, Imane Bassala, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes docteur en lettres modernes, auteur de plusieurs ouvrages. Ce sont des monstres sacrés de notre littérature que je viens de citer. Sacré, le mot n'est pas là par hasard. Sacré au point que leur sexualité était est restée longtemps cachée, tabou. On n'en parlait
tabou
pas, c'est ça.
Non mise en avant parce que les faits de Victor Hugo en tant qu'écrivain et homme politique auraient remué le ciel et la terre si aujourd'hui on les savait. Enfin, en tout cas, on les disait. Si on transposait ça à une personnalité de son acabit, voilà.
Donc, il fallait cacher certaines de ces frasques. Est-ce que on va ensuite rentrer dans le détail de l'histoire de certains d'entre eux. D'une manière générale, est-ce que ça dit beaucoup de leur littérature ?
Oui, ça dit beaucoup de leur littérature dans le sens où, quelque part, ils écrivent comme ils baisent, puisque c'est le mot, je suis désolée de l'employer ainsi, mais c'est le mot qu'ils utilisent le plus, tout un chacun. C'est-à-dire que, qu'elle soit, cette sexualité, qu'elle soit contenue, expansive, ou qu'elle ait donné l'impuissance, elle est tout à fait retranscrite directement dans les écrits. On le verra à travers les exemples, c'est difficile à résumer comme ça.
Dans un instant, c'est Victor Hugo qui nous accueille voilà. Chez lui, dans sa chambre. Plus il vieillit, plus les femmes qu'il aime sont jeunes. À toutes les curieux.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce que j'admire le plus, c'est les dépravés sexuels.
RTL, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ils savent exactement ce qu'ils veulent. C'est une chose quand même éblouissante de précision. Ils savent qu'il leur faut telle chose, des chaînes, des choses, certains mots, certains gestes.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais comment ils ont découvert ça? Par une sorte d'introspection phénoménale. Mais eux savent ce qu'ils veulent, ce qu'il leur faut.
Pour satisfaire votre curiosité, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, sur RTL.
La vie sexuelle des écrivains, c'est ce que l'on vous propose maintenant dans la curiosité avec notre invité Imane Bassala qui publie un livre sur ce thème aux éditions Nouveau Monde. Dans votre livre, on croise Marguerite Duras que l'on vient d'entendre.
Oui, celle qui dit on désire comme on écrit toujours.
On croise Colette, on croise Madame de Lafayette ou Georges Sand côté femme, on croise Hugo, Proust, Simenon ou Monsieur de La Fontaine côté homme. Est-ce qu'il y a des abstinents dans l'eau?
Des abstinents, totalement abstinents. Parce que c'est compliqué, parce que quand on parle d'abstinence, est-ce qu'on parle de pratique personnelle, comme on dit, de plaisir personnel ou pas? Parce que il est vrai qu'il demeure un tabou en littérature, c'est quand même celui de la masturbation, même si le mot apparaît chez Montaigne dès le 15e siècle. En tout cas, ce que j'ai choisi là pour ce premier opus, parce que.
Il y en aura d'autres.
Ils ont plutôt une suractivité sexuelle, c'est ça?
Elle peut être retenue comme Proust, mais en tout cas, ils ont une suractivité de la pensée sexuelle.
Ah oui.
Alors si on commence
par... Ce sont des obsédés textuels, comme dit justement un journaliste.
C'est joli,
à propos de mon livre.
On va commencer par un rapide tour d'horizon. Stendhal, par exemple, il vivait avec une hantise.
Oui,
laquelle
il craignait beaucoup ces fiascos, en fait, ces moments d'impuissance qui se sont multipliés, qui l'ont dévoré, et surtout que ça se faisait souvent en groupe. Hein. On parle aujourd'hui beaucoup des orgies, mais c'était quelque chose de très viril d'aller faire l'amour en groupe dans les bordels.
Et oui, donc ça se voyait si on était impuissant,
voilà.
Évidemment.
C'était plus ça, à mon avis, qui était très terrible.
Comment Stendhal surnommait les femmes?
Eh bien, il les appelait ses fiascos.
Oui, c'est ça, quand ça ne marchait pas, il parlait des fiascos.
Ah oui, ses fiascos. Et puis, il y avait les femmes qui l'idéalisaient. Bon, alors, c'était les reines, et ça amenait à la même chose aux fiascos, mais on ne les appelait pas comme ça, pas comme celles du bordel.
Certains de ces auteurs sont insatiables. Guy de Maupassant, par exemple.
Oui, Guy de Maupassant, qui est mort quand même de la maladie de l'amour, qui est à l'époque la syphilis, dont Flaubert craignait qu'il tue sa créativité avec sa semence et qui a beaucoup écrit pour plaire aux femmes. En témoigne la statue du Luxembourg où une femme lit l'œuvre de Maupassant. C'était quand même un grand outil de séduction, le livre.
Il n'y avait pas aussi un peu de vantardise que racontait par exemple Victor Hugo à propos de sa nuit de noces?
Alors, vantardise. Non, c'est tout à fait, à mon avis, réel qu'il ait honoré sa femme 8 fois lors de sa nuit de noces parce qu'il était très jeune et vigoureux et qu'il avait attendu ça depuis des années.
On racontera ça dans le détail tout à l'heure, parce qu'on va évidemment se pencher, si j'ose dire, sur la vie sexuelle de Victor
Vous
Hugo.
Vous ne penchez pas trop, Thomas.
Non,
oui,
pas trop.
Tout peut prendre un double sens.
Mais oui, c'est pour ça que c'est drôle, on adore ça
il
ici.
Il manie très bien la langue, ses auteurs, on etc.
Nous aussi, on aime bien jouer avec les mots. Ces écrivains célèbres, ça c'est vous qui l'avez fait cette vanne. Ces écrivains célèbres, ils se côtoient, ils dînent parfois ensemble, ils parlent de femmes, évidemment. Racontez-nous ce dîner chez Zola qui réunit Alphonse Daudet et Gustave Flaubert. Que se disent-ils?
Zola réunissait tous ses écrivains dans ses fameuses soirées de Médan. Et puis, on se dit des grivoiseries à l'heure de la petite poire. Et il lui disait, par exemple, « Il me faut pour jouir contre ma chair, la chair de deux femmes, l'une que je manie et l'autre qui mange le derrière de celle que je tripote. » Alors voilà mal, Alphonse Daudet, l'auteur des Lettres de mon moulin.
Tout de suite, c'est bien raconté.
Iman, Bassala, la sexualité de ces écrivains célèbres nous dit forcément beaucoup d'eux-mêmes et peut-être aussi de leur littérature. On va détailler par exemple l'histoire de Victor Hugo. C'est un bavard. Victor Hugo.
Oui, c'est un bavard et d'ailleurs
avant, pendant, au milieu, tout le temps.
Et après, il parlait de République et de Nation et c'est pourquoi on lui pardonnait parce qu'il violait quand même, il faut le dire, ses petites bonnes qui arrivaient. Puis elle se disait quand même, ce grand monsieur, il me parle de grandes choses et lui pardonnait beaucoup à cause de ça parce que ce n'était pas.
C'était un violent, Victor Hugo.
Sans doute, oui. En tout cas, dans ses rapports sexuels, il pouvait l'être très facilement.
Enfin, vous dites Pierre, vous dites que c'est un violeur, c'est ça?
Oui, je dis que c'est un violeur.
Ouais. Ouais. C'est quoi le modèle familial de Victor Hugo?
C'est le patriarche. Il est marié à Adèle, son amie d'enfance. Mais il règne sur ce qu'on appelle son goum, en fait. C'est-à-dire, il y a toute la famille, plus sa maîtresse officielle, plus les autres, etc. Et tout ce monde doit le suivre et lui obéir au doigt et à l'œil.
Mais ils ne vivent pas tous ensemble, quand même?
La maîtresse, Juliette Drouet, sa plus grande maîtresse, a toujours habité à côté de chez lui. À chaque fois qu'il part, y compris en exil, il lui achète une maison près de chez lui.
Alors, il faut raconter d'abord l'histoire de Victor Hugo et d'Adèle. Vous nous avez dit, ils ont dû attendre longtemps la nuit de noces. 40 mois, pourquoi?
Parce que
les familles ne se mettaient pas d'accord.
Les familles n'étaient pas d'accord. Ouais. Victor Hugo n'était pas très riche. Il voulait s'occuper des lettres. Bon, c'était pas très sérieux. Et puis petit à petit, enfin très vite, il a eu un prix. En fait, enfin le roi lui avait alloué quelque chose comme 1000 francs de rente pour ses premières poésies. Et bon. Et puis la mère de Victor Hugo est morte et tout cela a accéléré la possibilité du mariage.
Et puis vous nous avez expliqué que cette nuit de noces tourne à l'obsession pour Victor Hugo.
Oui,
c'est enfin,
il en parle tout le temps, durant des années. Ouais.
Et c'est ça, la nuit arrive, donc ouais. Il honore sa femme 8 fois. Ça se passe comment pour Adèle?
Non, pour elle c'est un cauchemar. En fait, c'est un viol, il s'acharne sur elle, elle le dit clairement. Enfin, c'est vraiment le puceau qui s'acharne sur la délicate. Elle se remet pas de ce cauchemar.
Mais elle raconte où ça?
Elle le raconte en fait à l'amant qu'elle va prendre à Sainte-Beuve, elle l'écrit.
Parce qu'elle finira par se lasser de Victor Hugo et par prendre
un
amant.
Elle se lasse de Victor Hugo, elle se lasse de ses assauts continuels et lui, au même moment, il découvre le monde, il découvre qu'on peut avoir des histoires et bon, ça se croise bien à ce moment-là en fait.
Et Victor Hugo va donc rencontrer, vous nous avez cité son nom, cette comédienne Juliette Drouet. On va vous raconter cette part de son histoire, c'est une liaison qui durera très très longtemps. Restez avec nous sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Curieux et coquin ce soir de découvrir la vie sexuelle de nos plus grands écrivains avec l'auteur Iman Bassala. On était en train de raconter l'histoire de Victor Hugo, cet ogre, cet immense écrivain, évidemment, mais cet ogre aussi sexuel qui a attendu 40 mois avant de faire l'amour lors de sa nuit de noces avec sa femme Adèle. Un viol, 8 assauts, qu'Adèle va quand même très très mal vivre. Et puis un jour, il va rencontrer une autre femme, une comédienne, c'est Juliette Drouet. Et là, c'est le début d'une longue histoire. Et la date de leur première nuit d'amour a même inspiré l'écrivain. Pour quel roman?
Alors en fait, c'est cette date du 16 au 17 février 1831. Et c'est pas exactement que ça l'a inspiré. C'est une date qui va revenir en symbole dans plusieurs romans, dont Les Misérables, quand Marius épouse Cosette, c'est la même date. Et chaque année, ils s'écrivent ce qu'ils appellent la lettre du livre de l'anniversaire. Juliette et Victor Hugo s'écrivent une belle lettre à cette occasion. en plus des 22 000 lettres que Juliette a écrites à Victor Hugo.
Donc ça veut dire que cette nuit-là, en tout cas avec sa maîtresse, est mieux passée que celle avec sa femme.
Oui.
Elle laisse un meilleur souvenir. On en a le récit ou pas?
Non.
Elle sera sa maîtresse notoire, on va dire ça comme ça, pendant combien de temps?
Pendant une cinquantaine d'années, au point que toute la famille finit par l'accepter, au point où elle se rend au chevet de Victor Hugo malade, et au point où Adèle, qui a combattu longtemps Juliette Drouet, qui vient chercher à salir toutes les autres maîtresses pour nuire à Juliette Drouet, a dit à ses fils, quand elle a su qu'elle allait mourir, elle a dit à ses fils de s'occuper toujours de Madame Juliette Drouet.
Alors vous avez dit qu'il y avait d'autres maîtresses.
Il y a une femme, une maîtresse et d'autres.
Les prostituées. Et alors, ce qui était drôle, c'est que pour se faire... En fait, il devait se cacher de sa femme et de Juliette pour tout ça. Et il écrivait dans ses carnets très codifiés, parce que quand on est écrivain, on a aussi de l'imagination beaucoup pour écrire les choses. Et il écrivait, par exemple, pour Marie Mercier, qui était une de ses maîtresses. « Marie Mercier a raccommodé mon paletot. Torse, je lui paye sa journée plus chère malgré son refus, 4,50 francs. Torse, ça veut dire qu'elle lui a montré sa poitrine et qu'elle s'est refusée à lui, mais il le maquille en quelque chose de domestique. Il lui a donné son paletot à coudre et elle a refusé. Voilà. Donc, et puis il garde comme ça très précieusement quand il a vu la Suisse, ça veut dire qu'il a vu tous les seins. Il codifie tout ça dans des carnets, il note tout.
Mais c'est une obsession tout. Le sexe chez lui ?
C'est une obsession, oui. On peut dire que c'est une obsession de puissance, je pense, de mainmise. En fait, l'image de la pieuvre ou de l'araignée revient souvent dans l'œuvre de Victor Hugo. Il y a quelque chose de tentaculaire au point où il s'empare des amours de ses proches. Et
oui, par exemple, Alice Ozy. C'était qui, Alice Ozy?
Une actrice dont s'était pris son fils Charles. Et Charles finit par dire « Alice, je comprends que vous préfériez mon père. »
C'est-à-dire qu'elle va succomber à Victor Hugo.
C'est pire que ça, c'est-à-dire qu'elle-même s'est emparée...
Pique à son fils son amour.
C'est pire parce qu'elle s'est emparée de Charles pour arriver à Victor. C'est des intrigues et des intrigues d'alcôve dans tous les sens.
Et puis on ne peut pas raconter la vie amoureuse de Victor Hugo sans parler de Léonie Daunet. Qui est-elle?
Alors Léonie Daunet, c'est un peu différent que toutes ces femmes, parce que bon, les comédiennes, etc., c'était des femmes à sa botte. Léonie avait un certain statut, elle écrivait, elle était femme d'un sculpteur, Monsieur Biard, et c'est l'union charnelle absolue. Il parle de coït ouvertement avec elle, elle a 25 ans, et ils se font prendre en flagrant délit d'adultère. Alors il faut savoir qu'il y a quelque chose de très injuste à cette époque-là, c'était que pour la femme, quand l'adultère était constaté hors de la maison ou à la maison, c'était pareil, elle était embarquée. Tandis que l'homme avait le droit à l'adultère à l'hôtel, c'était pas grave. Si c'était chez lui, là, il risquait d'être poursuivi. Et donc, il y a ce fameux flagrant délit, et Léonie est envoyée au Madelonnette, qui était une sorte de maison de redressement à ce moment-là pour femmes. Victor Hugo part tranquille, et ça, pendant 7 ans, il est avec elle et avec Juliette, et Adèle le sait et cherche à se servir de Léonie pour écarter Juliette, mais ça ne se passe pas comme ça parce que Léonie...
Il y a des règlements de compte entre elles.
Beaucoup de règlements de compte, parce que pendant 7 ans, Victor Hugo lui dit oui, je vais finir par quitter Juliette, et in fine, il peut pas la quitter parce qu'elle lui a sauvé de la vie lors d'un épisode de la Commune, et malgré tout, il a cette sorte de reconnaissance. Et Léonie, un jour, s'empare de toutes les lettres que lui a écrites Victor Hugo. Et elle les envoie à Juliette. Et Juliette s'aperçoit qu'il lui écrit les mêmes choses. Parce qu'on a beau être écrivain, l'imagination amoureuse... C'est un peu comme aujourd'hui, j'imagine, dans certains adultères. Bon, à un moment, on ne sait plus que dire. On écrit les mêmes textos, etc. Sauf que, bon, là, lui a envoyé toutes les lettres. Et ça a été terrible pour Juliette.
On parle beaucoup de sexe, mais est-ce qu'il a été amoureux, Victor Hugo? Est-ce qu'il a aimé une femme?
On peut dire qu'il a aimé Juliette. Oui, que c'était son compagnon. Peut-être quelque chose de masculin dans Juliette.
Est-ce que l'âge a calmé l'appétit sexuel de Victor Hugo?
Il l'a augmenté jusqu'au ridicule, parce que Juliette, qui au début était jalouse, finit par lui dire « Bon, à un moment, ça devient ridicule, ton histoire, en plus, ça se sait avec ton statut, etc. » Elle se moque de lui. Elle dit que c'est une maladie, que ça ne le rend pas heureux, et il s'en rend compte. Et il continue, il multiplie, et à la fin, c'est 80 ans, et il fait venir jusqu'à 4 prostituées par jour.
Donc aujourd'hui, on appellerait ça, un sexe addict finalement.
Un sexe addict, un satyre. Enfin, tout comme il se décrit lui-même plusieurs, plusieurs reprises. Parfois, il n'est pas si. Il n'est pas gentil avec lui-même, forcément, Victor Hugo non plus.
Il se nourrit de ses femmes. Est-ce que c'est une sorte d'antidote ? Est-ce qu'on peut dire ça ?
Je pense, de vampirisme. De, ouais. Il mange tout le monde. Il mange, on peut dire qu'il a mangé ses enfants. Il n'est, enfin, Adèle H., sa fille, a fini quand même. Érotomane, hein. Elle était érotomane, sa fille, il y a un truc avec Léopoldine, il avait des relations très fortes, limite incestueuses. Son fils Charles, il l'a rendu tout faiblard, il lui a pris. Et c'est quelqu'un qui mange son entourage.
Autre géant de la littérature française, pour le rencontrer, on va remonter le temps jusqu'au XVIIe siècle, c'est Jean de La Fontaine. Il classait les femmes en trois catégories. À tout de suite, les curieux.
Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon.
RTL, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule. Je me fais ramener l'abricot.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Je me fais foyer le cœur fendu. Je me fais tailler la pelisse. Je me fais planter le Mont-Velu.
Pour satisfaire votre curiosité, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues sur RTL.
On fait tout ça.
Mais oui, on ne pouvait pas se passer de Colette Renard, forcément, pour illustrer notre thème de ce soir, puisqu'il est question d'écrivain et de sexualité. Alors là, il y en a un jeu avec les mots pour parler de sexualité. Voyage au pays de nos écrivains les plus célèbres. Voyage et découverte, celle de leur vie intime avec Iman Bassala, qui publie La vie sexuelle des écrivains chez Nouveau Monde Éditions. Jean de La Fontaine, je le disais juste avant la chanson de Thomas Dutronc, il classait les femmes en trois catégories. Lesquelles ?
C'est un peu un héritage de l'amour courtois. Hein. Il y a celles que l'on courtise et celles qui servent au reste. Lui, il y avait les courtisanes, les femmes de la cour, au sens stricto sensu, pardon.
Oui.
Il y avait les prostituées et puis les jeannetons, c'est-à-dire que les femmes que l'on pouvait prendre pour rien facilement, paysannes et autres.
Et sa femme, il l'a classée où ? Hors catégorie ?
Hors catégorie, c'était madame qu'il fallait vraiment, qu'il fallait épouser, point barre.
L'histoire de Jean de La Fontaine nous emmène à Château-Thierry. C'est un enfant rêveur et un jeune homme fugueur, Jean de La Fontaine, c'est ça ?
Il est capable de suivre une colonie de fourmis comme les dames de bonne compagnie. Et on le retrouve comme ça dans le lit de la femme d'un lieutenant. Et c'est là que son père dit... décide qu'il faut absolument le marier parce que c'est
il était prêt à partir à fuguer,
en pleine nuit dans la neige risquant les chiens
pour aller rejoindre qui, cette lieutenante générale, c'est
voilà
ça, cette
exactement
femme du...
Et alors en arrivant dans sa chambre, il ne l'avait pas prévenue, hein, et il se rend compte qu'elle dort avec une autre dame, comme ça peut arriver même sans relation voilà,
c'est quoi, une dame de compagnie ou non, les femmes dormaient ensemble,
oui,
des amis
etc.
Soirée pyjama, quoi.
Soirée pyjama, exactement. Les pyjamas étaient un peu plus compliqués qu'aujourd'hui.
Voilà,
donc ça.
Puis il faisait froid
en plus.
Alors donc notre jeune Jean de La Fontaine débarque chez madame la lieutenante générale de Château-Thierry.
Il se cache sous son lit, puis il lui prend la main. Et puis finalement, il a réussi, comme disait l'expression de l'époque, à lui prendre sa petite toit.
Et l'a fait tomber hors du lit, oui.
Elle l'a invité à monter quand elle a compris. Et puis voilà.
Alors La Fontaine va se marier à l'âge de 27 ans. Elle se marie avec qui ?
Avec Marie Ricard, qui a une quinzaine d'années, mais c'était fréquent, c'était un âge fréquent de mariage.
Pour les femmes ?
Pour les femmes.
Ouais. C'est un mariage heureux ?
Non, pas du tout. Il la délaisse très très vite, il lui fait un enfant dont il ne s'occupe pas. En fait, c'était pas c'était le chantre de la morale, mais c'était pas le roi de la morale pour sa vie privée.
Elle va chercher à se venger d'une certaine façon. Marie, elle va quoi, succomber ou essayer de le rendre jaloux avec un capitaine de dragon, c'est ça ?
Oui, alors elle fait absolument courir tous les bruits tout en restant chaste. Et c'est les amis de La Fontaine qui poussent un peu, qui disent mais quand même, il faut que tu venges ton honneur. Il dit moi je m'en moque, qu'elle s'occupe. Et puis bon, à un moment il y va, il
donc
arrive.
Il fait quoi ? Il le provoque en duel.
Il le provoque en duel. lui, ah oui. C'était la chose à faire. De toute façon, il n'avait pas le choix s'il voulait se montrer un tantinet gentilhomme. Et le capitaine des dragons lui dit, mais bon, pauvre poète, tu vas vite tomber. Moi, je suis capitaine des dragons, ça sert à rien ton histoire. Il dit, oui, mais quand même, je suis obligé de le faire. Et bon, il se bataille un petit peu et il tombe vite à terre. Et puis, il repart bras dessous. Puis, il dit, bon, allez, tu reviens quand tu veux chez ma femme. Et voilà, l'affaire est close.
C'est génial.
Alors, il était tranquille, ce genre de la Fontaine.
Ah oui, il était tranquille. C'était quelque chose, il était tranquille et distrait. On disait souvent distrait.
Jean de La Fontaine, grand observateur de la nature humaine, grand moraliste, vous le disiez aussi,
oui.
Et observateur aussi de la bonne société de son époque. Et sous le règne de Louis XIV, il est introduit dans ce monde. Comment il y vient ?
En fait, il est d'abord introduit quand même par Fouquet, qui est dont Louis XIV que Louis XIV déteste. Donc, c'est plutôt par les femmes qu'il est introduit, par la Mancini, par
la nièce de Mazarin.
Voilà,
c'est
la
ça
nièce de Mazarin, toutes ces intrigantes, les favoris du roi, etc., qui petit à petit amènent Louis XIV à se pencher un petit peu sur Jean de La Fontaine, mais il n'est pas très très.
Il a du succès au sein de la cour, Jean de La Fontaine.
Il a du succès, ouais, pour ses contes galants, pour ses contes galants. Voilà.
C'est-à-dire
c'est pour les contes érotiques, et c'est fables érotiques, plus que pour les fables que nous apprenons aujourd'hui à l'école.
Ça veut dire quoi? Qu'il les lit à la cour?
Oui,
qu'il fait passer les
lit,
textes.
Les femmes les plus prudes les trouvent divertissantes, et c'est ça qui fait sa célébrité. À ce moment-là, on le trouve d'une grande finesse. On rigole à ces histoires de prêtres qui cherchent à séduire les jeunes filles en inventant des choses abracadabrantes. Enfin, c'est.
Quand je pense que nous, pendant des années, on a appris le corbeau et le renard.
C'est dommage.
Franchement,
on aurait dû apprendre ces fables galantes.
J'aurais plus éclaté à réciter mes poésies.
Est-ce qu'il a rendu Iman Bassala jaloux certains des puissants qu'il côtoyait, Jean de La Fontaine, de conquête en conquête ou de séduction en séduction?
Jaloux, on peut pas dire non, parce que finalement, il s'arrêtait plutôt aux prostituées et aux femmes qui ne valaient pas grand chose à ce moment-là. Pour l'écran de la cour.
La femme de Fouquet, il n'avait pas.
Il lui avait écrit ici, mais alors c'était resté platonique, mais il lui avait écrit de très beaux vers, oui. Comme il en a écrit pour Fouquet d'ailleurs.
Mais dans ces fables, je parlais justement des fables Le Corbeau et le Renard et tellement d'autres fables qui sont d'ailleurs très jolies, il ne parle jamais de sexe.
C'était autre chose. Après, bon, non, pas vraiment. Non, il servait plus à critiquer la cour, ces fables-là, qu'autre chose. Mais non, les contes galants étaient les contes galants, les fables étaient les fables, bien qu'il ait commencé à les écrire toutes ces deux versions de son art à partir des années 1660.
Jean de La Fontaine, qui a été entretenu par
plusieurs femmes,
d'une de
fait.
Ses conquêtes,
oui.
et notamment Madame de la Sablière.
Alors, Madame de la Sablière était plutôt d'abord un ami de son mari, elle était plutôt conquise par son art. C'est pas ce qui va rester comme. On ne peut pas utiliser vraiment le terme de conquête.
De conquête, oui.
Bon, il l'a conquis par l'esprit, mais ça ne s'est pas déroulé vraiment.
Alors,
comme ça.
Alors, qui sont ses maîtresses?
C'est plutôt
une
des grandes prostituées, enfin, qui a tenu un grand bordel, Madame Ulrich, chez qui se trouvaient beaucoup d'hommes et femmes de lettres, d'ailleurs, qui l'a entretenue jusqu'à la fin, parce qu'elle lui... Elle acceptait son champagne, il acceptait pardon son champagne et ses vivres et son gîte, et il lui disait mais je veux pas que ton mari, parce qu'elle avait quand même un mari, nous surprenne, et voilà, c'est.
Alors on a. Et pas... pour conclure, comme Victor Hugo, Jean de La Fontaine, plus il vieillit, plus de rêves, il fantasme de conquête de plus en plus jeune,
oui,
c'est ça.
Oui, une jeune fille d'une quinzaine d'années lui fait perdre son chemin, et il prend 3 jours de cheval au lieu de 2 heures pour rentrer chez lui, et il est effectivement fou de ces jeunes beautés.
Tiens, une femme de lettres maintenant dont les amours vont défrayer la chronique. Colette, une femme qui aimait aussi les femmes, à toutes les curieux. C'est Paul Young sur RTL, Come Back and Stay. C'est peut-être ce qu'a dit Colette à ces femmes ou ces hommes qu'elle a aimés. On raconte l'intimité de nos plus grands écrivains. Qu'est-ce qu'on en sait d'ailleurs? Pas grand-chose. Leur vie amoureuse et sexuelle est longtemps restée cachée, mais notre invitée, Iman Bassala, la révèle dans un livre publié aux éditions Nouveau Monde. On va raconter maintenant l'histoire de Colette. Elle naît en 1873. Dans quel environnement familial? Simple, bourgeois?
Petite bourgeoisie. Maman Sidonie et papa Colette, capitaine Colette, très hédoniste, très tranquille. Quoique maman Sidonie est très dépensière, ce que ne dit pas la légende.
La maman de Colette portait votre
mais
prénom.
Oui, mais oui.
Je ne savais pas.
Elle a même écrit un roman qui s'appelle Sido.
Sido, oui.
C'est mon surnom. Je crois que c'était vraiment pas sur moi, c'était vraiment sur sa mère.
Ah, on peut vous surnommer Sido.
Vous êtes la seule personne au monde à ne pas y avoir pensé, Thomas.
Non, je sais pas. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on...
J'aime beaucoup qu'on m'appelle Sidonie. Bon, parce que c'est un prénom que mes parents ont choisi avec amour.
Je m'en doutais, vous voyez, c'est ma subtilité qui s'est exprimée là, dans ce silence.
Ça vous arrive.
Sido, c'est musical. Sido, c'est musical. Non, attends,
c'est vrai que c'est joli.
Bon, allez, on raconte l'histoire de Colette.
Allez, cette émission sur moi. Son premier amour à Colette, c'est un dénommé Willy.
Oui.
C'est qui?
Alors Willy, c'est un homme de lettres très connu qui passe à l'endroit où elle vit, où il a en nourrice un enfant illégitime. Et ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais ce n'est pas le coup de foudre non plus. Elle est plutôt amoureuse de l'homme de lettres, et il est plutôt amoureux d'une femme qui ferait une bonne épouse.
Et donc ils vont se marier, Colette et Willy. Dans quelles circonstances?
Dans quelles circonstances? Eh ben, il l'épouse à la mort de sa propre maîtresse avec qui il a un enfant adultérin.
Oui, c'est en fait Colette le sauve un petit peu, quoi.
Voilà,
permet aux convenances de se maintenir.
C'est ça,
quoi, c'est
on s'occupe un petit peu de l'enfant dans la famille et voilà. Les choses semblent s'arranger, mais il écrit à plusieurs reprises à son frère que c'est vraiment ni un mariage d'amour ni un mariage d'argent.
Et pas non plus un mariage. Très érotique, ça se passe pas très bien
elle le traite d'impuissant, il dit qu'elle veut préserver sa ligne, ne pas tomber enceinte, enfin c'est assez complexe, mais ils essaient de tenir tout.
Et à cette époque,
parce qu'il lui fait vite, il comprend qu'elle a du talent, et vite il lui fait écrire, et vite ça marche.
Ah, ce sera un Pygmalion en quelque sorte.
Et ben il lui fait écrire sous son nom à lui. Les premiers Claudine, c'est sous le nom de Willy. Mmh. Avant de devenir Colette Willy.
Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, La vie sexuelle des écrivains, c'est que vous cherchez des passerelles forcément
oui,
entre leur vie sexuelle et
leur
œuvre.
Même quand ils se séparent, Willy et Colette, ils écrivent des livres où des romans à clé, on les reconnaît. D'ailleurs, Willy dit à Toulé, qui est un grand poète, d'écrire un livre sous son nom, parce que Willy faisait écrire tout le monde, hein, pas que sa femme, et lui dit il faut vraiment qu'on reconnaisse Colette dans cette dame, et tu lui donnes ce truc, et elle doit être mal fagotée, et puis voilà. Et il se venge à travers des livres, hein. C'est vraiment Colette contre Colette, quelque part.
Et Colette aime aussi les femmes.
Oui.
À quel âge elle découvre sa bisexualité?
Ça commence un petit peu, comme souvent, par des petits jeux de collège. Il y a une fugue aussi avec sa professeure de piano à l'adolescence. Mais elle attendra la trentaine quand même pour s'ouvrir véritablement aux femmes. Et c'est quand même Willy qui la pousse beaucoup. C'est un fantasme absolu de Willy de se promener toujours avec plusieurs femmes. Et donc, si sa femme pouvait être aussi avec une autre. Et c'est à 30 ans qu'avec deux Américaines, l'une la déçoit et l'autre aussi, d'ailleurs, très vite, parce qu'elle s'aperçoit qu'elle n'est qu'un passe-temps pour elle, alors qu'elle prend ça de façon très forte, très passionnelle, très exacerbée. Nathalie et Georgie. Georgie aura sa punition dans Claudine amoureuse où Colette lui tire le portrait très bas. Sauf que Georgie a les moyens d'empêcher l'apparition. Elle rachète tous les exemplaires de Claudine amoureuse. Seulement deux sont restés jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas revenus. Et voilà, c'est pour ça que tout est vraiment...
Ça veut dire qu'on peut le lire quand même, ce roman aujourd'hui?
On peut en trouver. En tout cas, l'édition de la Pléiade mentionne de larges chapitres.
D'accord. Donc ça veut dire que Colette, en fait, on ne sait pas vraiment si elle est vraiment bisexuelle ou si elle a voulu plaire surtout à Willy.
Si elle a voulu avoir une sexualité, si elle a voulu plaire à Willy, si elle a voulu de l'affection, beaucoup, parce que quand elle est avec Missy, avec qui elle joue aussi sur scène, c'est aussi, elle la prend sous son aile, elle lui donne de l'affection. Il y a aussi beaucoup ça, c'est un petit chat, c'est pas pour rien que le chat ou la chatte apparaissent beaucoup dans son œuvre.
Là, vous avez évoqué Missy, qui est une actrice du Moulin Rouge, c'est une autre... partie de la carrière ou de la vie de Colette.
Oui, Missy n'est pas d'abord une actrice du Moulin Rouge. Missy suit Colette parce que Missy a pris des cours de pantomime où elle se montre assez dévêtue, où elle provoque des scandales. Missy est une dame de la haute qui est devenue Oncle Max, qui s'habille en homme alors qu'elle est Mathilde Morny et qu'elle est liée quand même à Bonaparte.
C'est-à-dire, c'est une descendante de
Elle est descendante du demi-frère.
D'accord.
Voilà, mais c'est très, très important. C'est-à-dire que le saut des Mornies, c'était quelque chose très fort, qui a vraiment scandalisé. Et elle a suivi les cours de pantomime avec un dénommé Vague, avec Colette. Et elles sont montées sur scène ensemble et elles se sont embrassées sur scène ensemble.
Elle joue quel rôle sur scène, Colette ? C'est quoi son registre ?
Colette, elle joue le faune, le félin, l'amoureuse, la romanichelle. Tous ces rôles très érotiques facilement.
Ou, des vêtues aussi.
Des vêtues, peau ouais. de bête, un sein qui apparaît. C'est la première à avoir refusé le faux nu parce que souvent on faisait du nu, on se mettait des maillots couleur chair. Ouais. Et quand la nudité apparaît, c'était ce maillot couleur chair, pardon. Mais Colette, elle refusait ce maillot. Elle disait « Je veux danser nu. Si le maillot me gêne et m'humilie, humilie ma plastique, je n'en veux pas. » Et c'était la première à avoir fait ça, avoir montré sa vraie chair nue et pas avoir fait passer le faux pour le vrai.
Alors Colette qui est mariée à Willy, mais bon, c'est pas l'homme de sa vie, qui passe de bras en bras, souvent des bras féminins, et elle décide d'avoir un enfant. Qui serait le père ?
Alors c'est un mania de la presse à l'époque, Henri de Jouvenel, et elle aura une fille. Avec cet Henri de Jouvenel, mais elle sera aussi la maîtresse du fils de cet homme qui, à 25 ans, s'intéresse à sa belle-mère et pendant 5 ans, ils vont coucher ensemble.
Elle va se marier encore deux fois, c'est ça ? Donc Henri de Jouvenel et encore un autre après, c'est ça ?
Elle se mariera encore une fois, oui, à la fin, avec le bon, si qu'on pourra dire, nommer le bon.
Pourquoi ?
Eh bien, parce qu'il ne la trompe pas, il reste.
Comment se termine la vie de Colette ? Elle meurt à 81 ans.
Oui.
Est-ce que la bonne société a oublié ses frasques
Non, parce qu'on lui refuse l'enterrement à l'église et puis qu'elle-même ne les oublie pas. Elle est fardée comme une poule jusqu'à la fin.
Elle avait même un commerce de beauté, c'est
elle
ça ?
Elle voulait se faire de l'argent, parce que souvent, bon, voilà, l'argent va et vient, et elle a ouvert, effectivement, pas très loin d'où se trouve le Colette aujourd'hui, la boutique très à la mode, son fameux institut de beauté, où elle-même pratiquait des soins et maquillait. A priori, très mal, ça n'a pas duré cette affaire-là, même si toute la presse était là pour l'ouverture.
Le nu était beaucoup plus beau.
Voilà. Oui. Merci beaucoup, Imane Bassala. Merci. La vie sexuelle des écrivains, c'est publié aux éditions Nouveau Monde.
On dirait bien que c'est la fin de cette émission.
Oui.
22h s'avance à grands pas. Vous pouvez nous podcaster sur rtl.fr. Et on se retrouve demain à 20h où on va découvrir le foot des banlieues, ce fournisseur de stars du foot français depuis des décennies.
Et puis une drôle d'ordonnance avec des potions magiques de médecins oubliés. Et puis une course-poursuite avec les femmes gangsters.
Et tout de suite, vous retrouvez RTL Grand Soir avec nos amis Agnès Bonfillon et Sylvain Charlet. Bonne soirée à vous, RTL, il est 22h.
Vous écoutez RTL.